Si vous ne pouvez pas changer une situation qui vous fait du mal, vous pouvez toujours choisir l'attitude avec laquelle vous allez l'affronter. Bonjour à tous et bienvenue sur Cultive ta santé, le podcast qui va t'aider à reconnecter ton cœur, ton corps et ton esprit. Je suis Charlotte Jacquet, naturopathe et fondatrice de la méthode La naturopathie au fil des saisons. Ensemble, cultivons votre santé dès aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cultive ta santé. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous quelques pistes de réflexion sur la résilience émotionnelle. C'est un sujet qui me parle beaucoup et que vous me demandez d'ailleurs très très souvent d'aborder sur mes réseaux sociaux. Alors du coup, aujourd'hui, c'est parti, on va parler ensemble de résilience émotionnelle. Alors la résilience, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai qu'on entend très très souvent parler ces dernières années, mais il faut que vous sachiez qu'en tout premier lieu, la résilience, elle est reliée à la physique des matériaux. Je m'explique. La résilience, c'est en fait la résistance des matériaux soumis à un choc élevé et la capacité pour une structure, du coup, d'absorber l'énergie cinétique du milieu sans jamais se rompre. Ce concept de résilience, en fait, il a vraiment été développé depuis les années 1950 par de nombreux psychiatres et psychologues. Et c'est en fait Boris Cyrulnik, qui est un auteur très connu, qui justement l'a mis en avant, l'a médiatisé, notamment au travers de l'un de ses livres qui s'appelle « Un merveilleux malheur ». Voilà, c'est vraiment lui qui a amené un petit peu cet éclairage psychologique sur la résilience. Et en fait, la résilience, d'un point de vue psychologique, ça va être finalement la capacité d'un individu à dépasser un traumatisme. Qu'est-ce qu'on entend par là, en fait ? On entend par là l'adaptation et la résistance du corps au choc auquel celui-ci est soumis. Pour Boris Cyrulnik, le malheur n'est pas une destinée. Rien n'est irrémédiablement inscrit et on peut finalement toujours s'en sortir. L'être porte en lui cette capacité de traverser, de transformer et de faire ce qu'il a atteint finalement dans sa chair et dans son âme, une force vivante. Et ça, c'est vraiment pour moi la définition même de la résilience émotionnelle. C'est vraiment ce concept de se dire « Ok, ce qui est en train de se produire dans ma vie, ce que je suis en train de traverser, ce que je suis en train de vivre, comment finalement je peux transformer ça sous forme d'apprentissage et finalement me permettre d'en faire une force et me permettre d'avancer encore plus loin dans mes objectifs et dans ma vie. » Il y a deux dimensions essentielles à la résilience. Donc la première, c'est l'apparition d'un traumatisme qui va être consécutif à un choc qui va être subi. Alors, le choc, il peut être unique, c'est-à-dire qu'il arrive une seule fois, ou alors ça peut être un choc qui va être répété. Ce qu'il est important de préciser, en fait, c'est que vous allez avoir vraiment ce contexte du trauma qui va être marqué par la confrontation à des risques de nature différente. Et ça, ces risques qui peuvent être brefs, intenses, ça peut être cumulatif, ça peut être sur une longue durée. Dans son ouvrage « Le traumatisme », Ferenczi nous indique que l'effet immédiat d'un traumatisme dont on ne peut venir à bout aussitôt est la fragmentation. Et finalement, chaque fragment souffre pour lui-même. L'unification insupportable est éliminée. Donc ça veut dire en gros qu'on peut définir le trauma comme une violence externe et son effraction. Et on peut donc définir le traumatisme comme l'effet du trauma sur le sujet. La deuxième dimension essentielle à la résilience, c'est l'aptitude de la personne à surmonter le trauma à l'origine de la blessure. D'ailleurs, Cyrulnik, il l'a écrit. Alors, c'est un ouvrage collectif dans lequel il est intervenu. Donc, cet ouvrage, il s'appelle « La résilience, le réalisme de l'espérance ». Et en fait, dans cet ouvrage, il indique que le résilient doit faire appel aux ressources internes imprégnées dans sa mémoire. il doit se bagarrer pour ne pas se laisser entraîner par la pente naturelle de ses traumatismes qui le font bourlinguer de coup en coup jusqu'au moment où une main tendue lui offrira une ressource externe, une relation affective, une institution sociale ou culturelle qui lui permettra de s'en sortir. Donc ces deux dimensions-là, elles sont super importantes et vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous parler de justement comment on réagit finalement face à un trauma, comment on peut justement en phase de crise réagir et cultiver sa résilience. J'avais envie de justement par rapport à cette fameuse résilience émotionnelle, de faire quand même une aparté par rapport à l'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai que pour moi qui suis entrepreneur, alors déjà d'une chose, la résilience, moi c'est quelque chose que j'ai quand même appris à cultiver tout au long de ma vie. J'y ai mis un mot et des termes il y a quelques années, lorsque j'ai eu mon cancer, mais c'est vrai que depuis toute petite, j'ai appris à cultiver cette résilience intérieure parce que j'ai vécu différents traumas, différents chocs. Et en fait, plutôt que de me laisser... tout simplement de me laisser partir dans le choc ou de m'enfoncer dans le choc que je vivais. C'est vrai que j'ai toujours eu cette capacité un petit peu à me relever et à me dire « Ok, maintenant, qu'est-ce que t'en fais ?» Donc, c'est vrai que depuis gamine, je travaille beaucoup cette notion de résilience sans finalement savoir ce que je faisais. Alors, j'avais un petit peu plus l'image de la guerrière, on va dire, voilà, vraiment toujours en mode défensif combat, à essayer de trouver des solutions pour me sortir, en fait, de ces traumas que je traversais. Quand j'ai appris que j'avais un cancer, je suis passée par différentes phases, hein, les fameuses étapes du deuil, hein, le déni, la colère, etc. Et je suis tout de suite rentrée en stratégie de survie. Et là, c'est vrai que du coup, j'ai lu pas mal d'ouvrages de Boris Cyrulnik qui m'ont fait comprendre hein, toute cette stratégie de résilience. Et donc, quand je me suis lancée pour être entrepreneur, eh ben là, j'ai envie de dire, j'ai encore plus épousé cette dynamique et cette volonté, en fait, de me sortir de chacune des situations que je traversais, que je vivais, et finalement, de faire de chaque échec que je pouvais rencontrer une force. Donc, vraiment, cette notion de résilience entrepreneuriale, c'est vraiment ça. Je trouve qu'aujourd'hui, elle est vraiment hyper présente parce qu'on est face à un enjeu, pour moi, qui est actuellement majeur. Et c'est celui, et encore plus aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, avec la période qu'on a vécue avec le Covid-19 et qu'on est encore en train de vivre d'ailleurs, c'est vraiment cette idée de donner corps à son désir d'indépendance, de liberté et de prise d'initiative, et vraiment tout ça dans un monde qui est de plus en plus hostile et où on rencontre finalement un effondrement pour de nombreux secteurs économiques. Et où la pression sociale, je trouve qu'elle n'a jamais été aussi forte. Vraiment, par rapport à quelques années en arrière, je trouve que aujourd'hui, on rentre dans une génération qui est beaucoup plus compliquée qu'auparavant, je trouve. Donc, du coup, voilà, on a vraiment cette résilience entrepreneuriale et je trouve que être entrepreneur aujourd'hui, c'est finalement une magnifique alternative créatrice d'espoir et finalement de reconquête personnelle. C'est vraiment ça, en fait, je trouve. Être entrepreneur aujourd'hui, c'est... On part vraiment à la conquête de son être. C'est vraiment une quête qu'on met en œuvre parce qu'au-delà de lancer ton projet, ton idée et de créer ton concept, c'est vraiment cette quête de sens où tu vas te découvrir toi-même pendant le lancement de ton projet. C'est développer en fait son habilité à rebondir face aux différentes formes d'adversité et aux chocs inattendus et brutaux et aux échecs et pertes diverses qu'on va rencontrer quand on est entrepreneur. On peut lancer X projets, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous fonctionner et qu'en claquant des doigts, ça va être un gros eureka et ça va marcher. Moi, je sais que là, depuis 3-4 ans, j'ai lancé plein de trucs qui se sont ramassés complètement et où clairement, comme j'ai tendance à le dire parfois sur mes réseaux sociaux, où je me suis quand même cassé les dents à plusieurs reprises et où j'ai eu beaucoup, beaucoup de chocs et de déconvenues à différents niveaux qui ont fait que du coup, oui, il y a quand même cette grosse remise en question. Et la résilience, c'est aussi ça, c'est savoir se remettre en question et se poser et se dire « Ok, maintenant, qu'est-ce que j'en fais ?» Alors, comment on la cultive, cette résilience? Parce que finalement, cette question, elle est tellement importante. On a le sentiment, face à la résilience émotionnelle, qu'on ne peut rien y faire. Mais en fait, c'est faux. On peut vraiment agir et on peut cultiver cette résilience. Cultiver sa résilience émotionnelle, donc ça s'apprend. Et puis, ça se cultive surtout au quotidien. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire en watch-on une seule fois. C'est quelque chose qu'on va vraiment cultiver sur le long terme. Ce n'est pas inné. Alors, il y a une éco-psychologue qui s'appelle Caroline Baker et qui, dans son ouvrage « L'effondrement », nous dit qu'en fait, la résilience, c'est apprendre à naviguer dans la désintégration du monde tel que nous l'avons connu. En fait, vous allez travailler votre résilience intérieure petit à petit pour créer quelque chose qui est plus solide et surtout qui va vous permettre en fait de résister aux événements qui vont être potentiellement difficiles pour vous et qui vont survenir finalement sur trois types de liens. Donc, le lien avec vous-même, les liens familiaux et les liens sociaux. Alors, cultiver sa résilience en amont, on va dire en mode prévention, c'est possible. Donc, pour ça, on peut passer par plusieurs étapes. La première, c'est d'apprendre à écouter, définir et accueillir vos émotions. Pour ça, ça veut dire que déjà, il faut que vous sachiez c'est quoi une émotion et finalement, qu'est-ce qu'on a comme catégorie d'émotions. On va voir les émotions primaires, hein, celles qui sont basiques, donc la joie, la colère, la tristesse. On va avoir des émotions qui vont être secondaires, liées aux émotions primaires, et puis enfin des émotions sociales. Donc vraiment, si vous voulez travailler sur les émotions, je vous conseille de télécharger des grilles en fait, de lecture émotionnelle qui vont vous permettre de poser les émotions que vous ressentez à l'instant T au moyen de l'écriture et au moyen de, pourquoi pas, l'écriture automatique ou le fait de faire le point sur votre journée et d'essayer de définir un petit peu les émotions que vous avez ressenties, de les identifier. Après, vous pouvez aussi créer une routine bien-être. Là, l'idée de la routine bien-être, c'est pas de faire quelque chose, de partir martel en tête et de vouloir absolument créer une routine matin, midi, soir avec plein de trucs à faire. Parce que clairement, ça, c'est le truc que vous n'allez pas du tout tenir dans le temps parce que c'est trop contraignant. Donc parfois, c'est vraiment, ça tient à pas grand-chose. Ça peut être pratiquer un peu du yoga ou faire votre séance de méditation. On n'a jamais dit que la méditation, ça devait être une session d'une heure, une heure et demie. Hein. La méditation, moi, parfois, ça m'arrive de faire une méditation contemplative ou de faire une méditation sur 5, 10, 15 minutes. Et j'arrive parfois même à régénérer mon esprit avec une méditation entre 5 à 15 minutes au lieu d'une méditation sur une heure. Donc ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Mais je vous en parlerai tout bientôt, je pense, dans une vidéo ou peut-être que je tournerai d'ailleurs à une méditation guidée. Mais en tout cas, pour vous expliquer que c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant à partir du moment où on ne se met pas non plus la pression et que socialement, on ne s'identifie pas non plus à des personnes sur les réseaux sociaux qui ont des comptes super lisses et qui vous expliquent comment mettre en place un milliard de choses et que pour elles, ça marche et que finalement, chez vous, ça va peut-être créer de la frustration parce qu'on est bien d'accord qu'un compte lisse, ce n'est pas représentatif de la réalité et qu'on a tous des tâches quotidiennes. Par exemple, si vous êtes maman et que vous avez des enfants, on est clair que faire une méditation d'une heure en rentrant du travail, quand il y a les devoirs à faire, ça peut être très vite compliqué. Donc, il faut trouver ce qui vous parle et surtout ce qui est écologique pour vous et non frustrant et que vous pouvez mettre facilement en place dans votre quotidien. Et cette routine-là, elle va vous permettre surtout de trouver des instants, aussi courts soient-ils, de quiétude et de calme intérieur. Vous pouvez aussi mettre en place des actions quotidiennes qui vont vous permettre de vous vitaliser. On parle souvent de la revitalisation en naturopathie. Donc, il s'agit à la fois, hein, effectivement, de regarder ce qui vous dévitalise dans votre quotidien pour essayer d'agir dessus, mais surtout de multiplier finalement les actions qui, elles, vont vous vitaliser. L'exemple qui me vient là en tête, c'est tout ce qui est balade en forêt ou au bord de l'eau, que ce soit un lac, une mer, vous voyez. Ça va vraiment vous permettre, en fait, de travailler tous vos sens, que ce soit l'odorat, le toucher, la vue, vraiment, ça va vraiment vous permettre de vous détendre, vous reposer et surtout vous recharger énergétiquement. Vous pouvez aussi vous entourer d'un cercle social qui va être sain. Et j'insiste énormément là-dessus. plus on a un entourage toxique, et finalement, plus c'est compliqué d'être dans la résilience, hein, parce que en fait, on n'a pas que soi à gérer, et on a un environnement qui apporte de la toxicité quotidienne. Alors, on essaye au maximum du possible de faire le tri. On n'hésite pas à se faire accompagner d'un thérapeute hein, externe qui sera neutre dans la situation et qui vous permettra vraiment de poser les bases et de peut-être essayer de trouver des solutions annexes pour vous permettre justement de mettre de la distance avec ces personnes toxiques et du coup de vous créer un cercle plus sain. Il faut bien comprendre une chose, c'est que quand je ferme la porte à quelqu'un qui est toxique dans ma vie, je me permets d'en ouvrir une autre pour une personne qui sera... qui me permettra de me revitaliser en tout cas et qui me permettra de me sentir bien. Sachez bien une chose, c'est que ça, c'est une pièce majeure du puzzle de la résilience émotionnelle. Acceptez aussi que le changement fait partie de votre vie et ça, c'est vraiment inéluctable, s'il vous plaît. Ça, c'est vraiment un truc que j'entends souvent auprès des personnes qui me consultent tout simplement au cabinet. C'est souvent le changement, ça fait peur et ça vous effraie et du coup, vous avez du mal à comprendre que ça fait partie du processus. Et que finalement, les obstacles que vous allez peut-être rencontrer sur votre chemin, ça fait aussi partie du processus. C'est pas pour rien d'ailleurs que l'on dit que l'obstacle est le chemin. Et il y a un livre pour ça qui est top, qui s'appelle justement L'obstacle est le chemin et que je vous recommande à lire parce qu'il est extraordinaire. Prendre conscience que chaque événement stressant que vous allez rencontrer n'est que temporaire. Alors là, je parle bien du stress quotidien qu'on va avoir de manière journalière, mais certainement pas des angoisses ou de l'anxiété. Ça, c'est souvent un amalgame qui est fait entre le stress, l'angoisse, l'anxiété. C'est pas du tout la même chose, d'accord ? Le stress, c'est passager, c'est moteur, ça vous pousse à l'action et ça peut parfois devenir quelque chose de négatif. Mais ça se régule, ça se travaille. L'anxiété et l'angoisse, c'est autre chose. C'est un état émotionnel profond dans la durée qui s'installe et qui, justement, peut être problématique et qui peut vous amener à ce qu'on appelle une somatisation, c'est-à-dire que votre corps il va prendre la relève pour exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur. Et c'est ça qui peut être dangereux, c'est quand on commence à être sur la piste des angoisses. Donc, c'est là où c'est important de s'écouter et de mettre en place tout de suite des actions pour décharger l'angoisse et essayer justement d'en sortir. Il y a une méthode qui est top quand on essaie justement de travailler tous ces points, c'est la méthode Kaizen. C'est la méthode des petits pas, d'accord ? Quand vous voulez vous lancer un challenge, quand vous voulez vous lancer dans un projet ou que vous voulez réaliser un rêve, cette méthode-là, elle est très utile parce qu'en fait, ça permet de vous fixer des objectifs qui sont atteignables et surtout d'éviter de vous ramasser et de vous prendre un mur en pleine face parce que vous vous êtes fixé des objectifs bien trop hauts inatteignable et que du coup, ça va venir peut-être appuyer une blessure que vous avez, une blessure profonde que vous n'avez peut-être pas encore travaillée ou que du moins vous essayez de travailler, mais où il reste encore des bribes. Et donc du coup, si vous vous fixez des objectifs trop hauts à atteindre et que vous n'y arrivez pas, et ben là, vous allez faire écho à ces blessures-là et vous allez encore plus appuyer sur votre manque d'estime de vous-même ou sur votre manque de confiance en vous. Et ça va venir nourrir quelque part ce côté un peu plus négatif et ça va vous empêcher d'avancer et d'aller plus loin en fait dans vos projets. Donc la méthode Kaizen, c'est on y va petit à petit, on se félicite sur chaque avancée, sur chaque victoire et on gratifie ses talents. Ça, c'est important. Il ne faut pas que vous ayez peur non plus de prendre des décisions. Il faut savoir se lancer dans la vie. Plus on va avoir peur, plus on va procrastiner et en fait, on va rester face à sa non-évolution. Et on va surtout être dans une situation où on va observer les autres avancer. Et c'est là où il y a un risque majeur, je trouve, finalement, que la contemplation extérieure devienne finalement une forme de jalousie, où finalement on rentre dans l'envie de l'autre qui réussit, qui performe, qui monte des choses, qui crée des choses, alors que soi-même, on n'y arrive pas, faute de moyens, faute de temps, faute d'idées. Et en fait, pour moi, il n'y a aucune excuse valable dans la non-action. Et en fait, le temps que vous passez à vous donner des excuses pour ne pas vous y mettre, c'est de l'énergie perdue à la création de votre projet. C'est pour ça que je dis tout le temps, mais qu'il faut se lancer, quitte à se ramasser une bonne fois. Mais au moins, on aura tenté quelque chose et on aura une véritable expérience qu'on pourra analyser grâce à certaines métriques et finalement, comprendre pourquoi on s'est ramassé, reprendre le projet, travailler un angle différent et repartir dans son projet et relancer quelque chose de différent. Donc ça, moi, j'utilise la méthode des 5 secondes. Donc là aussi, il y a deux ouvrages. Hein. Là, vous avez l'ouvrage sur Kaizen qu'il faut aller lire, qui est vraiment bien. Et cet ouvrage aussi sur la méthode des 5 secondes qui est basé un peu sur le principe de la fusée. Où quand on a une décision à prendre, alors bien sûr, on ne va pas prendre une décision importante avec la méthode des 5 secondes. Hein. Mais pour toutes les petites décisions du quotidien, vous imaginez une fusée prête à décoller. 5, 4, 3, 2, 1, go ! Et vous prenez une décision et vous vous lancez. Et après, on ne revient pas dessus. Alors, vous pouvez commencer par des petites décisions, genre quel parfum de glace j'ai envie de manger, ou voyez, des petites choses qui sont simples, amusantes et qui vont vous permettre d'aborder cette solution avec beaucoup d'humour. Parce que la résilience aussi, elle fait écho à l'humour. Il faut en avoir beaucoup. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça vous permettra de travailler aussi cette sphère-là. Et puis, par la suite, de tester sur des décisions un peu plus importantes. Travaillez toujours votre ancrage. Ça, on ne le dit pas assez, mais la résilience passe par l'ancrage. Et très souvent, quand on n'est pas dans la résilience, c'est parce qu'on est complètement désaxé et qu'énergétiquement, on est complètement à l'envers et qu'on n'est pas ancré. Donc, on s'ancre bien dans la terre, on s'ancre bien dans le sol et c'est pas parce qu'on traverse une tempête et qu'on a cette image d'être malmené et de subir une pluie qui s'acharne sur sa vie, que ça veut dire que forcément, ça va tout ravager sur son passage, telle une tornade, comme on pourrait le voir aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que votre vie entière, elle part à la dérive et que, en gros, tout ce qui vous caractérise, votre personnalité et vos valeurs, elles vont être remises en question ou elles doivent être remises en question. Dans la vie, vous allez traverser des moments hyper difficiles. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Et celui qui vous dit que la vie, elle est rose, elle est magnifique et que c'est super joli tout le temps, fun tout le temps, super lisse, c'est complètement faux parce que tous les jours, on traverse des oscillations. On est des êtres cycliques. On oscille au travers des saisons. Ce n'est pas pour rien que moi, je suis fan des saisons. C'est que pour moi, c'est vraiment ça. On oscille au travers d'une saisonnalité. Et donc, du coup, notre vie, c'est pareil. Nos émotions, c'est pareil. Et en fait, on oscille au travers de la saisonnalité de la vie, la saisonnalité du temps, de l'espace. Et donc, en gros, c'est comment on fait pour s'adapter à cette saisonnalité et comment on fait pour accompagner notre corps, notre esprit et notre cœur au travers de ces cycles. Et bien ça nécessite un très bon ancrage. Donc là, c'était vraiment des pistes pour vous aider à cultiver ça en prévention. Mais c'est vrai que très souvent, on se retrouve en phase de crise et de trauma. Et là, on se dit, OK, comment je dois réagir, quoi ? Est-ce que finalement, je sombre dans une forme de dépression et je laisse finalement, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, la drama queen qui est en moi investir les lieux et ravager tout sur son passage ? Ou est-ce que dans l'accueil de mes émotions, je me laisse aussi la latitude de pouvoir réagir différemment ? Donc, en premier lieu, quand il nous arrive quelque chose, c'est important de garder une perspective, de garder une structure. Parce que quand on subit un choc, en fait, c'est tout notre monde qui s'effondre et on se retrouve comme plongé dans un chaos infini. Et encore plus quand on est hypersensible, finalement. Quand on est hypersensible, c'est vrai que le monde s'effondre littéralement et on ne sait pas comment faire et on ne sait pas dans quel sens partir. Donc, c'est vrai qu'on a l'habitude de se retrouver face à des mécanismes de défense. Alors, on appelle ça des mécanismes de défense instinctive d'urgence. Donc ça, on a le déni, la sidération, la panique, la confusion. On va avoir des réactions de fuite ou alors de colère. Et puis, on va passer notre temps à essayer de chercher des coupables. Oui, mais c'est la faute d'un tel et c'est parce qu'il n'a pas fait ça ou c'est parce que si ou c'est parce que ça. Et finalement, on n'est jamais dans « Ok, mais moi, quelle est ma responsabilité dans ce qu'il est en train de se produire ?» Alors bien sûr, il y a des situations où on n'est pas responsable. Quand on est face à un deuil, quand on est face à la perte d'un être cher, on est bien d'accord que vous n'êtes pas responsable de la situation. Mais pour vous expliquer que, voilà, parfois on a cette tendance à un peu chercher le coupable au lieu de se poser et de se dire « Ok, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je suis en train de ressentir et qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ma structure, elle ne s'effondre pas littéralement. Donc, la première chose, c'est d'apporter plus de souplesse à ces mécanismes de défense dans le temps et dans l'espace avec les trois liens dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le lien à soi, le lien à la famille et au foyer et le lien sociaux, le lien social. Donc, par exemple, ça va être ralentir, structurer un peu votre journée. On va éviter d'être dans trop d'action ou dans l'inaction complète. On va faire attention à garder un sommeil réparateur. On va, par exemple, observer plus de temps de calme, de temps de loisirs, des temps de sport. On va essayer de partager les tâches en famille, dans le foyer, par exemple, ou de mettre en place des rituels festifs. Au niveau social, on va essayer de se projeter dans l'avenir, de donner du sens un petit peu à notre vie et à tout ce qui va nous relier aussi aux autres. Et puis, par rapport à l'espace, on va essayer vraiment d'ancrer notre organisme avec de la méditation, avec de l'accueil et de la régulation émotionnelle. On va essayer aussi de se créer un sorte de lieu intime à la maison. Alors, on parle souvent d'hôtel dans les cadres de méditation, mais c'est ça, c'est se créer un petit espace à soi où on s'y retrouve et où on a un cocon, en fait, où on s'y sent bien. Et puis, pourquoi pas entretenir aussi avec l'entourage des liens forts et des moments de joie où on va sortir, voir ses amis, etc. La deuxième étape en phase de crise, c'est que il faut bien comprendre que la résilience, elle va nécessiter, donc c'est ce que je vous disais juste avant, c'est qu'il y ait plusieurs choses qui rentrent en interaction. Donc c'est notre propre psychologie personnelle, c'est la qualité relationnelle qu'on va avoir avec les autres et puis les soutiens qu'on va avoir. Donc Boris Cyrulnik, lui, il exprime très bien ça dans son livre dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle « Merveilleux malheur ». Il dit « La résilience est un tricot qui noue une laine développementale avec une laine affective et sociale. C'est un maillage. » Donc, c'est vraiment une histoire de maillage. Donc, c'est ce que je vous disais juste avant, ce fameux lien social avec le fait de savoir prendre du recul et finalement réussir à résoudre les problèmes. Plus vous allez prendre du recul, plus vous allez chercher à résoudre les problèmes, plus vous allez finalement développer une forme de créativité, pardon, d'imagination et d'humour qui sont essentiels à la résilience. Ça vous permettra vraiment d'apaiser des émotions qui peuvent être très douloureuses pour vous et surtout de renforcer vos ressources internes. Vous allez aussi développer des liens familiaux. Donc, ces liens familiaux, c'est vraiment cette notion qui va vous apporter une dynamique, une qualité de communication, une capacité aussi à partager vos émotions. Et ça, c'est très important que du coup, dans votre contexte familial, dans votre foyer, il y ait vraiment cette notion d'encourager chacun à exprimer ce qu'il ressent et de partager de l'affection et du soutien, des émotions qui sont épanouissantes, des bons souvenirs, des expériences enrichissantes et surtout de cultiver des projets qui sont motivants. Ça, c'est très important d'avoir un lien familial fort. Quand on parle de famille et de foyer, attention, il ne s'agit pas que de la famille qui est génitrice, c'est-à-dire vos parents géniteurs. Il s'agit aussi de la famille que vous allez vous créer de par votre compagnon ou votre compagne ou tout simplement de vos amis. Et après, tout ce qui est liens sociaux aussi, et ça rejoint l'idée d'avoir un entourage qui est sain, c'est vraiment cette idée de resserrer les liens, de se serrer les coudes entre amis, en famille, pour justement avoir un socle qui vous permette d'être dans cette résilience-là. La troisième étape, c'est de donner un sens au trauma que vous êtes en train de vivre. Là, il ne s'agit plus d'être dans le pourquoi je suis en train de vivre cette situation, mais dans le pour, P-O-U-R, plus loin, quoi, Q-U-O-I, pour quoi. Et là, on n'est pas dans la même question et on n'est pas dans la même situation. Dans la première, on essaye de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine du problème qu'on est en train de traverser ou du trauma qu'on est en train de traverser. Et dans la deuxième situation, quand on est dans cette phase-là, c'est de comprendre, OK, pourquoi je suis en train de vivre ce trauma dans ma vie. Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière? Qu'est-ce que ça vient m'apporter? Quel est l'apprentissage que je suis en train d'en faire? L'idée, c'est de transformer vos blessures en rage de vivre. C'est ça. C'est vraiment cette notion-là de se dire, ok, ce que je suis en train de traverser, ça va être un levier finalement à un moment donné de ma vie. Je sais que ça va m'aider. Je sais que ça va m'apporter quelque chose pour le futur, pour mon avenir. Je vais vous prendre un exemple, c'est que moi, il y a 5 ans, quand j'ai appris que j'avais des tumeurs au col de l'utérus, je suis vraiment passée par toutes les phases, surtout que c'était très, 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 très présent et que, en gros, j'avais pas beaucoup de solutions à m'apporter, enfin, d'un point de vue allopathique, et que les médecins étaient extrêmement défaitistes et surtout qu'ils me parlaient en fait de métastases et d'une probabilité que ça puisse gagner en terrain et se transformer en cancer féminin complet. Et ça, ça a été très dur à entendre et surtout pour moi, ça a été très dur dans le sens où je ne voulais pas non plus subir de choses qui m'agressent en fait au niveau du corps. Donc, je suis passée par plusieurs étapes hein, parce que ça a été un vrai deuil, en fait, entre guillemets, pour moi. Je reviendrai, je pense, dans un podcast ou une vidéo pour vraiment vous parler de tout ça. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est encore sensible pour moi. Mais pour vous dire qu'à l'époque, en fait, de cette maladie, donc de ce mal à dire que je ressentais à l'époque, j'en ai fait une force parce que je l'ai travaillé au moyen de la psychanalyse, au moyen de la naturopathie, au moyen de la médecine ayurvédique, au moyen de l'allopathie, au moyen d'une médecine finalement intégrative. Et j'en ai fait une force puisque ça m'a permis en fait de quitter le job que j'avais à l'époque, qui ne me plaisait plus, dans lequel je ne me retrouvais plus, dans lequel j'étais en perte de sens, de faire du tri dans ma vie auprès des gens de mon entourage, de faire le point aussi au niveau de ma famille et de fermer des portes à certaines personnes qui étaient toxiques pour moi, de faire le deuil aussi de certaines relations familiales que je n'aurais jamais et que je rêvais d'avoir, amicales aussi, enfin bref, ça m'a vraiment permis de faire un travail de fond et de comprendre tellement de choses sur moi-même et de me découvrir finalement, parce que clairement, je ne m'étais jamais encore découverte, donc ça a été vraiment une vraie découverte, et de cultiver cette fameuse résilience émotionnelle et intérieure que je continue à cultiver aujourd'hui, parce qu'on n'a jamais fini dans la vie, j'ai envie de vous dire, et qu'on travaille toujours sur soi, et que la vie vous envoie des épreuves qui vous permettent d'avancer encore plus loin dans votre travail. Et ça, c'est hyper important de bien comprendre qu'on n'a jamais fini. Et ceux qui vous diront le contraire, c'est pour moi des gens qui sont dans un ego spirituel élevé et qui finalement n'ont rien compris à la résilience émotionnelle et n'ont rien compris à ce que c'est vraiment de travailler sur soi. Pour moi, on travaille sur soi toute sa vie. Toute sa vie, parce que finalement, on ne règle jamais vraiment les choses et il y a toujours une part de blessure qui reste en nous, même si on travaille dessus. Et parfois, on peut vivre certaines situations qui vont venir réveiller, entre guillemets, cette blessure. Alors, elle ne sera pas réveillée de la même manière, hein, mais elle sera quand même présente et elle viendra mettre en lumière quelque chose qui nécessitera encore peut-être quelques ajustements. J'espère que ce podcast vous a plu et vous permet d'y voir plus clair sur ce qu'est la résilience émotionnelle et surtout comment la cultiver. Et j'avais envie de terminer ce podcast par une citation que j'aime beaucoup de Viktor Frankl qui s'appelle « Si vous ne pouvez pas changer une situation qui vous fait du mal, vous pouvez toujours choisir l'attitude avec laquelle vous allez l'affronter. » Merci à vous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout vite, à tout bientôt.